Oui, c'est un oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est une de compatibilité au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Le gouvernement congolais a présenté dans un communiqué de presse les données statistiques sur la situation de l'emploi dans le pays. Ces données font état de 100 000 emplois créés en RDC en moyenne chaque année et le taux de chômage en 2014 a baissé de près de 20%. En rapport avec ces données, Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre, dans sa cinquième tribune, estime que face à l'augmentation active de la population, le gouvernement ne pouvait réduire d'aucune manière ce taux de chômage. D'autres observateurs donc pensent par contre que cette réduction est plutôt réelle et non supposée. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre pour participer en direct à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15. Julie Feza, Bongonda et Thierry Lamegi concourent à la production de ce programme mis en onde par Alain Goy et coordonné et présenté par J.R. Nguyenbo sous la supervision de Leonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyenbo.
Merci à Christian Nienkala Nzou qui nous a écrit en disant un gouvernement qui ne connaît pas le nombre de diplômés, licenciés, gradués et autres fournis par l'ESU par an, mais ne connaît que le nombre d'emplois formulés pour tromper dans les statistiques pendant que nombreuses personnes, même plus gradées que nous, chôment depuis plusieurs années. Tony Kabori de Beni, les gouvernements ne devraient pas seulement se contenter de ces chiffres-là sans savoir comment est-ce qu'ils sont répartis dans chaque province. Il devrait plutôt répartir ses chiffres par province et cela pourra bien permettre aux jeunes Congolais de voir où l'on va. Mais à présent, nous sommes dans l'obscurité face à ces chiffres parce que, par exemple, à l'Est, les jeunes se mettent dans des groupes armés pour essayer d'échapper au chômage car ils n'ont plus d'espoir de trouver le travail. Junior Bambou, mais ce gouvernement, c'est mon qui. Ce rapport s'adresse peut-être aux étrangers, supposons que ça soit vrai, qu'ils nous donnent les détails précis, combien d'emplois créés dans chaque province et dans quel domaine ils doivent apprendre à nous respecter. Gondje Socrate, peut-être le gouvernement est correct en disant qu'il y a 100 000 Congolais par an. Mesdames et messieurs, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio Fumutoto Basanga, président de la Troisième Voie. Bonjour Fumutoto. Alors, nous avons également Steve Kivota, cadre de Palou. Bonjour Steve.
Bonjour monsieur.
Alors, d'entrée des jeux, à en croire, la cinquième tribune publiée par Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre, on a l'impression que cette tribune, Adolphe Mouzitou qualifie de la déclaration du gouvernement d'une folie. Alors, c'est à quel niveau cette tribune, en fait, l'ancien Premier ministre, constate cette folie dans la déclaration de gouvernement.
Je pense qu'il n'y va pas trop fort. Tout simplement, il est en train de constater que les déclarations sont plus ou moins illogiques parce qu'il est en train de tenir compte de déclarations du gouvernement. Le gouvernement a déclaré que depuis 2012, il crée au total 100 000 emplois par an. Pourtant, lorsqu'on tient compte de la croissance démographique, on prend 5%, qui est établi à 5%, il y a plus ou moins 2 millions de nouvelles demandes d'emploi chaque année. Ce qui suppose qu'en 2012, où on a établi le taux de chômage à 51%, comment est-ce qu'un gouvernement qui ne crée que 100 000 emplois sur 200 millions de nouvelles demandes d'emploi chaque année peut réduire le taux de chômage de 51 à 47%? Pourtant, si on fait 2 millions moins 100 000, nous allons remarquer qu'il y a 1 900 000 nouvelles demandes qui ne trouvent pas d'emploi par rapport aux chiffres que proposés déclarés par le gouvernement. Donc voilà le caractère illogique. D'où d'ailleurs, ça permet à l'honorable Mouzitou d'approfondir sa réflexion pour arriver finalement à considérer que le gouvernement depuis 2012 a changé sa méthode d'évaluation du taux de chômage. Mmh. Avant 2012, quand on évaluait le taux de chômage, on n'analyser plus les emplois créés dans les secteurs publics et dans les secteurs privés uniquement, le secteur privé formel, mais malheureusement, depuis 2012, on a commencé à appliquer une autre méthode, en dehors de la méthode traditionnelle, c'est-à-dire en dehors du secteur public et du secteur privé, on y ajoute actuellement un autre secteur des indépendants, un secteur d'auto-emploi. Ce qui fait, malheureusement, dire au gouvernement que depuis toutes ces années, toutes ces nouvelles demandes d'emploi, s'ils ne trouvent pas de l'emploi dans les secteurs publics, et moins encore dans les secteurs privés formels, ils en trouvent dans le secteur informel, en s'auto-emploi. C'est ça les caractères gravissimes de la déclaration du gouvernement où on démontre qu'on a pu réduire le taux de chômage dans l'entretemps en arrivant à 43%. Et là, c'est là où on n'accepte pas.
Dans la pratique, on évalue un gouvernement par rapport à sa possibilité. Vous êtes politologue.
Non. Le problème, c'est qu'on n'évalue pas le gouvernement par rapport à ses possibilités. Non. On évalue le gouvernement par rapport à la vision et à l'ambition de la majorité au pouvoir. Quelle est votre perception de la chose publique? Quel est votre projet de société? Et enfin, quel est le programme de gouvernance qui vous a investi au Parlement? Parce que Matata et suite, ou Joseph Kabila et suite, ont l'habitude de nous dire souvent ce qu'ils ont fait, sans au préalable nous avoir dit ce qu'ils avaient prévu de faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Nous ne pouvons pas évaluer un gouvernement par rapport
à... Mais dans le discours programme du Premier ministre actuel, il était clairement dit la lutte contre le chômage. Et je crois que c'est dans ce processus-là ou dans cette dynamique-là qu'il se termine.
On commence par là. Le Premier ministre Matata a été investi avec la prétention de mobilisation des recettes de 48 milliards sur 5 ans en recettes propres. Ça veut dire que s'il devait combattre le chômage, il devait arriver à mobiliser plus que la moitié de sa prétention. Et ce n'est qu'avec ces ressources-là qu'il pouvait maintenant nous montrer comment il est en train de combattre le chômage. Aujourd'hui, finissant sa troisième année d'exercice politique, le Premier ministre Matata n'aura pas réalisé plus que la moitié de sa prétention de mobilisation de recettes. Deux, le taux d'exécution de sa prétention de mobilisation des recettes est en général de 50% et en financement propre de 70% plus ou moins. Il est en deçà de ce qu'il a prétendu nous donner comme capacité de mobiliser les recettes plus que tous les autres premiers ministres qui l'ont précédé. De plus, le Premier ministre Matata a dévié le débat de la nation en nous parlant chaque jour de la croissance du PIB au lieu de nous insérer dans un débat réel de la croissance du produit national brut et le revenu national par tête d'habitant. N'étant pas économiste, j'ai des difficultés pour intégrer certaines questions, mais étant universitaire, je peux quand même, s'il vous plaît, je peux quand même entrer même dans le domaine économique. Mais c'est les journalistes. Quand on parle du PIB, on vend les ressources ou la production des richesses, les dépenses, les salaires qu'on sort par cet habitat. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas de statistiques nationales pour nous dire plus exactement nous avons combien de citoyens. Sur base de quoi le Premier ministre Matata est en train d'affirmer sa croissance économique avec le PIB chaque jour. Deuxième élément qui constitue pour moi un mensonge d'État, c'est celui du chômage. Mais c'est ce qui vient de relever quelques aspects très pertinents de l'intervention du Premier ministre Mosito. Ici, c'est bien dit. Comment mathématiquement le gouvernement pouvait-il en trois années réduire le taux de chômage de 55% à 43% entre 2012 et 2014 en créant 100 000 emplois alors qu'il y a chaque année plus de 2 millions de demandeurs d'emploi? Alors, d'après lui, le chômage avec son taux est statique ou il est dynamique? Ça signifie quoi?
Oui, mais parce que nous avons tous mis la tribune. Aujourd'hui, le gouvernement s'appuie sur les indépendants. Ceux-là qu'on a pu comptabiliser aujourd'hui, parce que hier, ils étaient considérés dans l'informel. Bon, c'est un jeu de mots. Le gouvernement appelle ça les indépendants. Mais le fait qu'ils soient occupés aujourd'hui, est-ce que nous pouvons refuser au gouvernement actuel de comptabiliser ces gens-là. Notamment les jeunes qui sont vendeurs de cartes sur la rue, les mamans qui vendent de pain.
C'est extrêmement grave. Quand on parle du massage d'État, c'est lorsque celui qui parle des privilèges des fonctions devait accéder aux données réelles pour donner l'information au peuple qui ne l'a pas fait, soit de bonne foi ou soit de mauvaise foi. Dans l'un comme l'autre cas, c'est extrêmement grave. Ça signifie quoi, monsieur le journaliste? Mais n'oubliez pas que le gouvernement Matata a déjà détruit l'économie nationale lorsque on a parlé.
Ça, c'est selon vous, mais les témoignages de FMI et encore d'autres partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons vu des navettes diplomatiques. Aujourd'hui, tout le monde apprécie les efforts du gouvernement congolais. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça peut même nous amener à conclure que voilà, les chiffres sont réels, comme le pensent certains observateurs.
D'abord, il faut reconnaître qu'on n'est pas en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Le diplomate qui vient, ils sont des diplomates. Un diplomate, ça ne vient pas critiquer. Un diplomate vient proposer. Donc, lorsqu'ils disent qu'on est dans le bon, c'est bien juste un simple langage diplomatique. Mais effectivement, vous aviez soulevé quelque chose de très important. La thèse actuelle, la méthode d'évaluation actuelle risquerait. D'abord, vous avez démontré que la plupart du travail indépendant, des travailleurs indépendants sont dans la précarité. Les vendeurs de cartes dans la rue, ce sont les gens que le gouvernement chasse. Et de deux, ils n'ont aucune cotisation sociale à faire. Après 65 ans, quand ils iront en retraite, auront-ils effectivement à bénéficier de cotisations sociales qu'ils auraient faites dans l'entretemps? Et comment ils vont prendre en charge leurs enfants, etc., etc. Déjà, c'est ça la précarité. Mais là où c'est plus grave avec cette méthode d'évaluation, si on va jusqu'en 2024, cette méthode risquerait de nous démontrer qu'en 2024, le taux de chômage est zéro. Pendant qu'on aura du
coup... Est-ce que c'est pas possible?
Non, il faut être sérieux.
Aujourd'hui, si vous permettez, on va passer de l'autre côté des standards pour accueillir le point de vue des auditeurs et puis on reviendra à vous. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe des sports vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, nous avons en ligne Tony qui est à Béni, qui va ouvrir les standards et qui va ouvrir également ces débats. Tony, vous êtes avec nous, bonjour Tony. Tony, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Tony. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur J.R. Bonjour à tous les deux invités et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole.
J.R., par rapport à la thématique, je dirais que cette déclaration d'une première minute, c'est une déclaration tout à fait propagandiste et erronée dans tous ses sens. Parce que, Monsieur J.R., moi je me pose une question. Ces 100 000 emplois, le premier ministre les a créés où? Dans quel coin? Qui nous dit? Dans quel domaine? Dans le secteur public, dans le secteur privé? C'est là où nous posons la question. Moi, je dis ici à l'Ombassou, monsieur Higier, il y a un phénomène là qu'on appelle marché pirate, communément marché pirate, c'est-à-dire que les vendeurs à la sauvette. Si vous parcourez les grandes artères à partir de 16 heures, toutes les grandes artères sont affluées par les vendeurs à la sauvette. Ça prouve à ce qu'il y a un chômage, un degré de chômage d'une manière là déclinant. Mais ce que monsieur le Premier ministre nous dit, c'est que monsieur de la population.
Maître Sourville, vous vous basez sur quel indicateur? Parce que nous ne devons pas faire les débats dans les vides. Si l'approche utilisée par le gouvernement est connue, je crois que c'est avec des données fiables de la Banque centrale et de l'INES, l'Institut national statistique. Mais vous, ce que vous défendez, c'est par rapport à ce que vous voyez ou peut-être vous faites une critique scientifique?
Oui, je fais une critique scientifique par rapport au...
Qu'est-ce que vous entendez par chômage?
Allô?
Qu'est-ce que vous entendez par chômage?
Oui, par chômage, ce sont des gens qui terminent leur travail et leur études qui ne trouvent pas de l'emploi. Or, il y a une procédure pour accéder à l'emploi. Si, monsieur, si, c'est par rapport à la déclaration de la Banque centrale. Moi, je m'insurge en faux, monsieur Gilles, ce sont des fausses données. Tout ce que nous vivons en réalité dans la société, et c'est les données par rapport à la Banque centrale. Mais il n'y a pas de conformité. Monsieur Gilles, c'est pourquoi je dis que j'analyse souvent tous les deux aspects. Tout ce que je dirais, ceci, monsieur Gilles, nous sommes en train de vivre ici à Lumumbashi. On est en train d'assainir dans les entreprises minières. Mais lui, M. Matas, ça nous dit qu'on crée des emplois, 100 000 emplois par an. Mais on est en train d'assainir. On est en train d'assainir dans tout
ça ne justifie pas ce que vous dites concrètement, mais que sont vides. Parce que d'un côté, d'une part, on est en train d'assainir. De l'autre côté, on est en train de créer. Nous avons vu avec la Transco et tant d'autres entreprises qu'on a créées et on a créé des emplois.
Mais par rapport toujours à Transco, on a...
Non, ce n'est pas le sujet du jour, mais moi, c'est juste...
Il y a un problème au niveau de l'Assemblée, M. Gilles. Par rapport à la création des emplois, M. Gilles, quand on parle de l'emploi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrat de travail. Et ce contrat de travail doit être écrit et rédigé dans la forme qui lui convient au parti d'adopter pour autant qu'il comporte les orientations visées à l'article 212 du présent Code du travail. Mais si nous parcourons, si M. Nathan nous dit que, même si la Banque centrale par rapport à ces données, est-ce que ces gens-là qui travaillent, M. Matat a
fait qu'ils ont des contrats. Donc pour vous, voilà, vous développez votre thèse par rapport au contrat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sonville. On va prendre Chantal qui est à Kinshasa. Chantal, bonjour. Voilà, Chantal, vous avez dit le taux de chômage peut diminuer, mais la question majeure reste, quelle est la qualité d'emploi créé?
Oui, en effet, hier. Donc, j'aimerais savoir si l'emploi créé est décent et permet à l'amélioration du pouvoir d'achat des employés. Ils ont un logement décent, des meilleures conditions de transport, la sécurité aux soins, et même les frais liés aux congés, vacances et leurs loisirs.
Voilà, merci beaucoup, Madame Chantal. Là, on retient par rapport à Maître Sonville qui aborde la question sur relative au contrat. Et vous revenez sur la qualité d'emploi. Alors, réaction rapidement, Steve et Fumoteto.
Moi, je suis complètement d'accord avec Monsieur Sonville. D'ailleurs, ici, nous, on n'a pas voulu trop contester les chiffres de 100 000. Même si on acceptait les 100 000, Monsieur Sonville, sachez que le gouvernement est toujours dans le mauvais. Parce qu'en réalité, il y a 2 millions nouvelles demandes d'emploi chaque année. Donc, même si le gouvernement créait 100 000, ça suppose qu'il y a 1 900 000
d'après quelle statistique? Non, vous regardez ce qu'elle...
Non, ce sont les statistiques de l'INSS. Aujourd'hui, on sait que la croissance de l'Institut National des Statistiques, INS. Donc aujourd'hui, on sait que la croissance démographique est de 5%. Donc il y a 2 millions de nouvelles personnes qui entrent parmi la population.
C'est 5%.
Non, c'est entre 3 et 5%. Donc c'est ça les problèmes. Donc pour nous, nous avions considéré que si cette méthode est appliquée par le gouvernement, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça risquerait à faire dire au gouvernement que tout est bon. Parce que si on va dans cette proportion, on risquerait en 2025 de dire qu'on a un taux d'emploi négatif, de telle manière qu'il y ait même des emplois qui manquent de gens. Donc pourtant c'est vraiment très négatif pour le gouvernement, pendant que nous disons au gouvernement qu'il y a 80% de la population qui font le champ à l'intérieur du pays, il nous faut des routes. Donc si le gouvernement considère qu'il crée assez d'emplois pour embaucher tous les Congolais, le gouvernement ne va pas construire de routes pour permettre à nos paysans à l'intérieur du pays de couler leurs marchandises. Le gouvernement ne va pas entrer dans un programme de rénover les niveaux énergétiques de la République démocratique du Congo, dont le taux de desserte n'est que de 9%.
Alors là, la préoccupation posée par Maître Sonville ainsi que par Madame Chantal sur le contrat et également la qualité d'emploi, ça nous pousse d'ailleurs à sucer encore votre la tribune, la cinquième tribune, qui en fait demande à ce que le gouvernement puisse évaluer au fait c'est cette courbe du chômage en catégorisant par secteur, par province et par domaine.
Et justement, ça, le problème, la grande question d'abord, le taux de croissance démographique est de 3%. Nous posons la question au gouvernement de dire dans quelle tranche d'âge il a tiré ces statistiques-là. Parce que dans chaque pays, nous trouvons trois tranches d'âge. Il y a la génération pré-active, il y a la génération active et post-active. le gouvernement a pris ses données sur base de quelle tranche d'âge? Il y a combien de Congolais qui terminent les universités, les cycles de graduats et consorts, et qui ont besoin d'emploi? Alors, lorsqu'on dit qu'on est en train d'assainir d'un côté, et de l'autre côté, on est en train de créer, il faut établir le déséquilibre. Il y a combien de déséquilibres? L'équilibre viendra combien de données? Assainir, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi.
Oui.
Il faut aussi comptabiliser le nombre d'emplois qui sont perdus par année dans, lors d'un assainissement. Deux, il faut pour dire qu'on a diminué le taux de chômage, nous dire vous avez au total reçu combien de demandes d'emploi. C'est pour affirmer que les données du gouvernement ne sont pas fondées, ne sont pas vraies, parce que les bases ou les sous-bassements de cette affirmation ne sont pas données. La Banque mondiale, Banque centrale peut donner les données. Mais nous demandons les sources et les sous-bassements de ces données.
La tranche d'âge.
Les jeunes sont plus nombreux que les vieux au Congo, plus ou moins 50% de la population congolaise est jeune. Ils ont comptabilisé les jeunes où, dans quelle province, pour nous dire que sur 10 000 jeunes qui demandaient l'emploi, c'est ça le problème. Troisième chose, sur les emplois qui existent, ça votre question, mais qu'est-ce qu'on entend par l'emploi? Je crois, si j'ai bonne mémoire, l'article 36 de la Constitution dit que le travail est un droit. Mais la Constitution se limite, c'est pas seulement dire que le travail est un droit, on parle aussi du salaire décent. Les hommes, les agents de la CNI que nous connaissons qui travaillent n'ont pas un bon salaire. Nous allons maintenant dans les indépendants, si vous l'avez dit ici, que le gouvernement considère qu'automatiquement, ils se sont employés, alors qu'ils ne savaient pas qualifier ces indépendants en réalité.
Mais non, le gouvernement parlait plutôt de la population active occupée.
Non, mais quelle est la politique sociale et la protection de l'État pour ces emplois des indépendants qui l'a comptabilisé? Parce que l'emploi, il ne consiste pas seulement à avoir l'emploi, il faut aussi à que l'État protège les emplois qu'on a avant de créer d'autres emplois que le gouvernement nous dit, il a institué quel type de protection pour ces emplois-là.
Voilà, on va écouter Audrey Mbandaka, Papi à Goma. Audrey, bonjour.
Oui, bonjour, Radio.
Vous avez la parole, Audrey.
Oui, je vous appelle depuis...
Mbandaka, oui, on l'a dit, Audrey.
J'avais trois préoccupations à poser à l'invité. La première, je voulais un peu savoir dans quel domaine ou secteur de la vie sociale que le gouvernement a offert de l'emploi aux jeunes...
Oui, ça c'est une question qui concerne le gouvernement. Je crois que nous allons organiser une émission avec les membres du gouvernement par rapport à cette question pour au fait venir soit appuyer ces données qui ont été publiées. Voilà. Et la deuxième question?
Oui. La deuxième question, je voulais un peu savoir, est-ce que le système que les organismes internationaux utilisent comme exigence dans leurs offres d'emploi, c'est-à-dire avoir au moins une expérience professionnelle de 3 ou 5 ans.
Voilà, je comprends que vous avez des inquiétudes. Notre émission, Papi Service, pourrait vous aider là-dessus. Merci, Audrey. Papi, vous êtes à Goma. Bonjour, Papi.
Bonjour, Radio Papi.
Vous avez la parole, Papi. Comment vous commentez cette actualité?
Oui, nous, moi, de notre côté, ici à Goma, on est vraiment surpris des chiffres que le gouvernement donne. Parce qu'on ne sait pas si nous sommes tous dans le même pays, la RDC, ou bien le gouvernement est dans un autre pays. Lorsqu'on affirme qu'on a réduit les taux de chômage au Congo, parle-t-on seulement de Kinshasa, ou bien de tous les pays, y compris Goma où nous sommes? Quels sont les emplois qui ont été créés ici à Goma? Pour quelle tranche d'âge? Parce que là, quand je suis l'émission, on parle peut-être de Transco. Mais Transco, est-ce que c'est tout le pays ou c'est seulement Kinshasa? Et en comparant ce que l'invité vient de dire, il y a combien de demandes d'emploi annuellement? Combien d'universités dans ce pays? Aujourd'hui, on a des universités dans tous les points du pays, y compris des villages, qui produisent des demandeurs d'emploi. Mais par contre, lorsque le gouvernement affirme qu'il a sensiblement réduit le taux de chômage, on se demande si nous sommes tous dans le même pays ou bien le gouvernement est dans un autre pays.
Et vous avez quelles données, vous, personnellement, Papi?
Non, mais les données sont là. Et on nous a parlé déjà de plus de 2 millions de demandeurs d'emploi.
Oui, 100 000 emplois créés.
Chaque année,
300 000 emplois.
La chaque ville, d'universités maintenant. Dans chaque ville, on a au moins une dizaine, trentaine d'universités qui produisent des centaines de milliers d'universités par an. Et quand on va nous dire qu'on a réduit ce taux de chômage-là, mais lorsque nous passons, par exemple, ici à Goma, lorsqu'il y a une offre d'emploi, on cherche un chauffeur, on cherche, je sais pas moi, un magasinier, il y a des gens viennent par centaines, par centaines de milliers pour demander l'emploi. Vous avez suivi. Lorsqu'on a voulu recruter des gens pour la FENI, vous avez vu combien de candidats il y a.
Un million.
Aujourd'hui, on a réduit les statistiques. C'est une façon de se moquer de la population.
Donc, vous vous basez sur ce que vous constatez sur le terrain, en donnant l'exemple de la CENI, lors de le recrutement, l'offre d'emploi qui a été lancée, on a vu quand même dans Gouéma, c'était plus d'un million. Donc, à partir de cette base-là, vous pouvez déjà faire aussi votre analyse sur ce qu'a dit le gouvernement. Merci beaucoup, papy, d'avoir appelé des comas. Serge, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Serge.
Bonjour papa, bonjour Radio Capi.
Vous avez la parole de Serge.
Je tiens d'abord à saluer les politiciens que vous avez sur le plateau. Et je tiens aussi à vous remercier pour l'émission.
Merci.
Ça fait presque 5 émissions que je suis en train de suivre et d'intervenir aussi. Je relève un constat. J'ai comme l'impression que au Congo, on ne respecte pas la population. Le gouvernement fait passer à la télé, dire ce qu'il veut. Il sait que cette population ne fera rien du tout. On peut venir présenter des rapports ou présenter des propos.
Oui, mais voilà. Serge, allez droit au but, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs qui attendent. Pour vous, est-ce que vous considérez que quelle est la folie que vous avez constatée dans cette déclaration?
Mais sortez dehors de votre studio. Mettez juste un petit papier pour dire nous cherchons un chauffeur. Vous allez récupérer combien de candidats dans 2 minutes? Et ces messieurs passent à la télé ou vous présentent des drapeaux pour dire qu'au Congo, on a lutté contre le chômage. Mais ils vivent dans quel Congo? Ils vivent dans quel Congo?
Oui, mais Serge,
dans quel pays?
Oui, Serge, il y a des éducateurs. Serge,
ils vivent au Congo. Je répète,
Serge,
c'est
vous.
Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Descendez en province. Vous allez voir combien de la population est en train de souffrir dans le chômage. Et même ceux qui ont un petit travail, on ne le paye même pas.
Oui, peut-être que dans le rapport du gouvernement, dans la déclaration du gouvernement, ce n'est pas clairement défini la part de rural, dans le secteur rural, et aussi on a focalisé les débats sur les indépendants, mais il y a aussi cette part-là de ruraux qui devait être prise en compte quand même.
J'aimerais insister sur une chose. Ce n'est pas la faute de ce gouvernement qui continue à nous mentir. Et cela, je donne raison à d'autres.
Dans l'attribut de responsabilité du gouvernement.
La faute d'abord des intellectuels congolais. Nous sommes devenus des illettrés. Parce que lorsqu'un gouvernement fasse devant la place publique pour mentir le peuple, alors qu'il y a des intellos qui ont les mêmes.
Non, c'est vous qui les dites. Mentir, mensonge, ça s'appelle débat. En fait, tu fais des déclarations qui appellent débat.
Je suis même parole parce que je sais que la situation du gouvernement n'est pas fondée.
Non. C'est une déclaration qui appelle le débat.
Non, le débat
est
le débat parce qu'ils n'ont pas donné des données fiables.
Donnez des données fiables, vous.
Alors, un instant. Dans la première chose. Deuxième chose, c'est la faute des opposants. Moi, je peux même dire qu'au Congo, vraiment, il n'y a pas de l'opposition. Nous sommes habitués à la chamaillerie, contestation, dénonciation. Mais les débats des idées, contradiction des données, je crois que l'opposition, moi, c'est de l'opposition, nous devons conjuguer et l'effort. Troisième chose, la société civile. À travers le monde, ce sont les ONG qui aident les politiques à avoir des données fiables. La société civile congolaise est toujours prête pour nous accompagner dans les postes politiques, mais ne nous fournit pas l'expertise qui est attendue parce que les ONG à travers le monde ont un statut consultatif. Et pourquoi ils ont un statut? Elles ont un statut consultatif parce que les ONG devaient en principe disposer des données.
Alors, je reviens sur la question. Les données. Mais nous avons donné les données. Nous avons dit dans quelle tranche d'âge le gouvernement a tiré sa prétention. Nous avons dit sur combien de demandes d'emploi le gouvernement a statué pour dire qu'il a diminué les taux de chômage. Et les amis de l'intérêt viennent dire, mais s'ils peuvent répartir pour nous dire à qui ça va autant
alors,
dans le banc, autant Qatar oriental, autant Qatar occidental, autant. Alors, comme ils ne peuvent pas nous dire ça, ceux qui savent que ce qu'ils déclarent n'est pas vrai.
Quelle est la vérité aujourd'hui? C'est cette variation à la baisse de 20% et c'est des chiffres supposés. Ce n'est pas réel.
En grande partie. Et le plus grand problème, c'est dans la méthode d'évaluation. En réalité, avant 2012, la Banque centrale, comme on l'a dit, évaluait les emplois en voyant plus de secteurs publics et les secteurs privés formels. Mmh. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que dans les secteurs informels, il y a un certain nombre d'auto-emplois que l'on peut considérer. Mais le gouvernement, malheureusement, est allé à l'extrême. D'où l'honorable Mouzito propose assez que, entre la méthode appliquée avant 2012 et la méthode qu'applique le gouvernement, que l'on puisse trouver une méthode médiane. Ou, en dehors du secteur public et du secteur privé formel, que l'on puisse tenir compte d'un certain nombre d'emplois dans le taux emploi dans les secteurs informels qui serait quand même bien. Mais malheureusement, dans la méthode actuelle, le gouvernement tient même compte de paysans qui entretiennent son potager. Et il considère cela comme étant l'emploi. Le gouvernement tient compte de certains jeunes qui mettent de cabine sur le domaine public que lui-même chasse. Et il veut considérer ça comme étant l'emploi, c'est vrai qu'il y a le côté gravissime. Et effectivement, quand nous on fait les calculs, l'honorable Mouzito l'a fait, on fait la projection en 2024 et même en 2025, il arriverait à ce que l'on ait un taux d'emploi, un taux de chômage négatif. C'est-à-dire qu'on aurait des emplois, on aurait même de travailleurs à importer, parce que le Congolais aura suffisamment d'emplois. Or, c'est ça qui est de la rigolade. Pendant qu'on sait qu'aujourd'hui, le Congolais, les jeunes Congolais, préfèrent aller à Brazza. Vous connaissez le problème, le drame qu'on a eu à Brazza, malgré qu'on nous a maltraités comme de malpropres au Congo-Brazza. Mais aujourd'hui, les jeunes sont prêts à y aller toujours. Ça veut dire qu'on a un sérieux problème d'emploi. Donc nous considérons que ces statistiques sont une stratégie pour le gouvernement de nous démontrer à la population que tous les indicateurs sont ouverts et que lui n'a plus rien à faire. Mais nous demandons effectivement de mettre en place des politiques publiques, d'abord de dire vrai, de faire une politique en disant vrai à la population, en lui disant qu'on a un sérieux problème en termes de chômage.
Il n'y a pas une réduction. Il n'y a pas une réduction.
Ce chômage-là.
Vous estimez qu'il n'y a pas une réduction de quel chômage?
Évident. Au-delà d'estimer, ce sont les chiffres qui nous les montrent. Si on tient compte effectivement des indépendants, voilà la stratégie machiavélique. Parce qu'en tenant compte des indépendants, d'abord, même si à la limite, on peut considérer que ce sont des emplois, mais ça serait des emplois très précaires. Parce qu'il n'y a aucune couverture sociale.
Déjà,
je vous donne un chiffre. Déjà, les gens qui sont dans le formel, les secteurs privés formels, par rapport aux chiffres que nous donne l'Institut national des statistiques, rien que 1,8% de ces gens sont affiliés, c'est-à-dire de travailleurs dans le secteur privé formel. Et a fortiori, les gens qui sont indépendants.
Juste un complément, on va repasser le niveau des standards.
Pour affirmer la thèse des mensonges d'État. Le 23 octobre 2013, le président de la République, lors de la procédure de concertation nationale, évalue le gouvernement Matata et cite à la page 13 de son discours cette phrase. Il y a inadéquation entre l'évolution normale des indicateurs du cadre macroéconomique et les vécus quotidiens de la population. Nous sommes à la fin de l'année 2013. Et seulement à la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014, on a diminué les taux de chômage jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer entre le chef de l'État et le Premier ministre qui y va?
Bouchiri est à Kisangani, Eric à Lumbashi, Robert à Kinshasa. On va vous accorder la parole. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer. 081-890-7315 ou par Internet. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Alors nous poursuivons parole aux auditeurs avec Bouchiri qui est à Kisangani. Bouchiri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
Oh, merci. Merci de m'avoir donné la parole.
Voilà, monsieur Bouchiri, est-ce que vous pouvez éteindre carrément votre poste récepteur? Comme ça, on va s'écouter par téléphone.
Oh, merci, merci. Alors, je voulais, moi, intervenir, c'est-à-dire, chers journalistes, selon les thématiques, il y a beaucoup d'emplois on crée à Kinshasa, un temps à l'intérieur. C'est-à-dire, ici, à Kisangani, nous ne voyons même pas. On ne sent même pas cet temps. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont chômés, mon petit est chômé. Il travaille ici à l'IAT. Il transporte. Mais où on a créé des emplois?
Merci beaucoup. Merci Bouchiri, si vous avez posé une question de fond. Eric, là, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Eric.
Bonjour, JR. Un petit correctif, c'est Victor, ce n'est pas Eric.
Voilà.
Et je voudrais juste contribuer à la thématique du jour.
Allez-y, allez-y.
Je suis très flatté que les invités aient mis à nu le gouvernement par rapport aux données fatidistes qui étaient.
Non, ce sont des données.
Allô?
Ce sont des données que le gouvernement a mis sur la place publique, mais qui appellent le débat. Mais ce n'est pas dit que ce que mes invités disent, c'est une parole d'évangile.
Tout à fait. Alors, je m'en vais directement pour tout droit au but. Et, disons, les emplois qui sont en train de parler, je crois que il y a les emplois qui sont créés, mais le gouvernement n'a pas une stratégie de planifier par an combien d'emplois il peut créer par rapport aux différents secteurs de la vie. Je prends par exemple le secteur de la santé. Il y a combien des agents de la santé, les infirmiers, les médecins, il y en a qui ont atteint le l'âge de retraite, mais qui sont encore là en train de travailler. Le gouvernement ne prend pas de stratégie pour que ces gens-là, progressivement, puissent aller en retraite. La deuxième chose, ceux qui travaillent, tant dans le secteur public que le secteur privé, le statut ou le code du travail prévoit un avancement en grade ou en échelon. Depuis que nos parents ont commencé au rang de huissiers jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont morts huissiers. Personne n'est monté d'échelon. Tout cela, ça ne pourra pas améliorer le quotidien de travailleurs congolais. Voilà un peu de mots, notre intervention, disons, à partir de Lubumbashi. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. Là, vous évoquez un cas de retraité, des personnes qui deviennent inactives. Donc, pratiquement, est-ce que dans la déclaration du gouvernement, on a tenu compte de cette catégorie de la population pour, en fait, ces rapports publiés? Voilà, ça met une question, je crois, que nos invités qui ont eu suffisamment le temps de scruter la déclaration du gouvernement et à opposer la lettre. Donc, nous aurons un peu d'éclairage. Robert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Vous avez la parole, Robert. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Eh bien, je dirais ceci. Je ne voudrais pas trop commenter sur les chiffres, hein, parce qu'on va les éléments pour faire valoir un avis. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que pour évaluer toutes ces données au niveau de l'emploi, le gouvernement a créé toute une série de structures qui devraient l'aider justement à évaluer une structure de l'emploi. Malheureusement, ces structures qui, au lendemain, surtout du Forum national de l'emploi en 2007, organisé par Mme Ange Lucien à l'époque, ce forum l'avait créé beaucoup de structures qui devaient aider le gouvernement à maîtriser le secteur de l'emploi. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que ces structures-là n'ont pas été.
N'ont pas fait long feu, c'était débordé.
De leur politique à cette structure pour aider le gouvernement. Je parle de l'ONEM, je parle de ProSER, ProYEN, tout ça. Ce sont ces structures-là qui aident le gouvernement, mais ils sont abandonnés. Ils n'ont pas de budget, rien. Moi, je parle en tant qu'ancien député de la métro-provinciale du travail à Matadi, Soumbati et Léon Poussou, je vous dis, j'ai eu à être confronté à ce travail d'évaluer les nombres d'emplois créés dans la province du Congo. Et c'est vrai, nous avons des difficultés, nous sommes obligés d'aller ratifier un peu dans les chantiers, et la route de Kinkanda, dans les chantiers, à l'intérieur, pour justement trouver ces emplois. Donc, vous comprenez que c'est difficile. Tout simplement, moi, c'est que l'ONEM, à qui nous avons passé, par exemple, ce recours, hein, l'ONEM était incapable de nous donner...
Oui, Robert, vous avez travaillé dans les secteurs aujourd'hui, en comparant les chiffres, est-ce que vous pensez que c'est quand même possible aujourd'hui qu'on puisse arriver à améliorer les taux de chômage dans ce pays?
Il est possible, c'est pourquoi il est possible, mais le gouvernement doit être réaliste, hein, c'est-à-dire que les structures qu'il crée, eux-mêmes, pour faire, ce sont des structures qui sont dotées des capacités théoriques qu'il faut, mais à qui on donne pas de moyens pour bien fonctionner et aider le gouvernement. Ce n'est pas parti du bureau du ministre qu'on traite ces choses-là, ça partit de cette structure-là, eux-mêmes pour faire. Mais même si déjà on ne s'est pas enregistré, les demandeurs d'emploi.
Donc, si je comprends bien, Robert, vous insistez sur le renforcement de l'activité de ces structures qu'on a créées pour réguler le secteur.
C'est par ces structures qu'on peut évaluer facilement et de manière efficace. Et même dans la création d'emplois, ces structures sont outillées, hein, pour justement aider le gouvernement à créer des stratégies pour permettre que les emplois soient créés dans tous les secteurs. Et de façon que même toutes les tranches d'âge soient intéressées. Malheureusement, on ne donne pas de moyens, on se contente de mécaniser les personnes qui en a dit, qui est un peu partout. L'ONEM lui-même n'est pas encore installé dans la République, vous comprenez? Et là où l'ONEM n'est pas là, elle n'est pas installée, c'est l'inspection du travail qui souffre de manque de présence personnelle, notamment les inspecteurs du travail. Donc vous comprenez que. À ce niveau-là, moi, je ne voudrais pas commenter sur le chiffre aujourd'hui.
Tout à fait. Non, mais vous avez apporté quand même une valeur ajoutée dans cette... Oui.
J'insiste sur le fait que le gouvernement va...
Renforcer la capacité de toutes les structures existantes.
Et au lendemain du Forum national de l'emploi, de Marie-Ange, qui en a organisé, et c'est grâce à cette structure qu'on peut arriver, justement, à stabiliser ou même à rendre performance, justement, ce qui peut nous permettre
d'évaluer
l'emploi.
Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, Robert, il faut renforcer les capacités, la capacité donc de l'activité et de cette structure qu'on a créée, qui selon vous pourrait être capable non seulement de créer de l'emploi, mais aussi d'évaluer ces taux, la courbe des chômages ou encore les emplois créés. Vous avez cité l'ONEM, le PROIEM et puis le Forum national de l'emploi qui a été créé à l'époque de Madame Henri Angelukiana. Voilà. Donc, nous allons prendre Ralph Ngunga qui est à Francfort en Allemagne. Ralph, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Gérard Ndembo, comment allez-vous?
Oui, nous allons bien, et vous en Allemagne?
Oui, je vais bien en Allemagne, il fait un peu beau aujourd'hui, 25 degrés. Voilà, je vais droit au but concernant la thématique d'aujourd'hui. Avant tout, je salue vraiment de cœur vos invités. L'autre, que j'ai oublié le nom, mais l'un, j'ai oublié le nom, l'autre, c'est M. Fumutoto, que je salue cordialement. Concernant la thématique du jour, M. Gilles, je pense que je ne vais pas critiquer directement le gouvernement, les données que le gouvernement a mis sur la place publique, mais j'aimerais avant tout faire... analyser quelque chose. Bon, on doit pas seulement considérer le secteur public, on considère avant tout le secteur public et privé, mais avant toute chose, nous devons définir quelques points. Étant économiste de carrière, alors définissons avant tout ce que un revenu, parce qu'il y a différentes sortes de revenus. Il y a, disons, je vais citer quelques sortes de revenus. Il y a le revenu du travail salarié, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une société par action à responsabilité limitée. Donc, revenu du travail salarié, premier point. Deuxième point, il y a, par exemple, le revenu d'exploitation industrielle. Il y a, troisième point, le revenu de protection indépendante du travail ou bien du travail indépendant. Donc, quelqu'un qui a créé lui-même une entreprise. Et quatrième point, il y a des revenus financiers, donc location et bail. Et cinquième point, je vais vite au but, revenu des capitaux mobiliers, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déposé ses capitaux en banque, qui, avec les intérêts conçus, reçus, donc ces personnes peuvent subvenir à ses besoins. Donc, dépose, je touche le point de besoin, mais que je vais définir après.
Oui, rapidement, parce qu'on a pris assez.
Cinquième point, c'est qu'il y a des revenus agricoles et forestiers. Et septième point, je citerai diverses autres revenus, mais pour tous ces 7 revenus, les 7 sorties revenus que je viens de citer, il serait mieux que le gouvernement compte à ces revenus doivent être comptabilisés par le gouvernement ou bien par l'INSS, l'Institut National des Statistiques. Si l'Institut National des Statistiques comptabilise ces revenus, il doit, à l'aide de ces revenus comptabilisés, savoir s'il y a un emploi qui a été mis à jour et à l'aide de cet emploi qui est mis à jour, à l'aide de ce taux d'emploi qui est mis à jour, savoir si la diminution de chômage des gens qui ont adhéré au travail à ces secteurs que je vais citer, ou alors il y a moins de gens qui ont adhéré à ces secteurs.
Comme ça, ça pourrait être un tableau des bords et permettre au gouvernement d'avancer. C'est ça, Ralph?
Oui, le gouvernement doit avant tout. On peut pas, si le gouvernement n'a pas la possibilité de comptabiliser lui-même, de définir avant tout les secteurs, les différents secteurs de revenus. Parce que, définition avant tout, monsieur Chier, un salaire, ou bien un emploi, c'est un travail. Donc c'est un travail que quelqu'un peut assumer pour
gagner
à ce besoin mensuel. Donc un papa qui est marié, qui a
trois enfants
à la maison, avec son salaire qu'il reçoit, il doit être en mesure de payer son loyer, il doit être en mesure de faire
nourrir ses enfants,
il doit être en mesure de payer son transport mensuel, donc de toute sa famille. Donc c'est ça le salaire.
Merci beaucoup, Valérie.
Si le gouvernement ne sait pas comptabiliser les différents sortes de revenus,
merci beaucoup d'avoir fait cette proposition. Voilà, ça pourrait être une indication qui pourrait aider les uns et les autres. Merci beaucoup, Ralph Ngunga, d'avoir appelé de Francfort, en Allemagne. Pierre, vous êtes à Matadi, et puis on va terminer par Père Bernard, qui vient de nous appeler des Kadanga. Pierre, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, Rafi, bonjour, l'invité. JR, je tiens à vous dire que, juste un simple exemple, à Collégie, il y a une école qui s'appelle Moutouchi, Roué. C'est là où viennent tous les techniciens A2 de ce pays, la majorité, quoi, y compris moi aussi qui te parle, quoi. Tous nos collègues actuellement sont partis en Zambie et à Zimbabwe. L'actuel PDG de Chemin de Fer de Zambie a étudié à l'école technique de l'ICAFI. Pour te dire que dans les années jusqu'à 90, Moutouchi fournissait tous les techniciens à la Zegamine, à la SNCD et ainsi dans tout le
monde. Et au niveau des pays voisins.
Voilà, voilà.
Pour te dire que alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est...
Oui, tous les gars qui sont des écoles, là, ne savent rien faire. Et l'exemple simple, tu trouveras sur chaque parcelle des ventes, des rachides, des unités, des cartes, des maléwa. Pour te dire que le chômage a atteint un, je sais pas,
un niveau...
Oui, oui. C'est simple, quoi. Hein. Calculer le taux de chômage.
Voilà. Donc vous nous demandez de calculer le taux de chômage juste en observant ce qui se passe dans la rue. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir appelé les Matadi. Père Bernard, vous êtes à Kananga. Bonjour, Père Bernard.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Père Bernard. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour disons, inverser la courbe des chômages, mais au moins maîtriser cette courbe pour éviter à ce qu'il y ait de spéculations des gens que nous avons enregistrés tout à l'heure, Père Bernard?
Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est la première fois que je participe à cette émission. Et moi, j'ai quelques remarques et des questions que je me pose personnellement. Je suis dans la ville de Kananga et je suis intéressé au collège et institut de la place. Nous avons au moins cette université, si ma mémoire est bonne, dans la ville de Kananga. Et je constate que la plupart de nos finalistes, surtout les diplômés d'État, quelle que soit la section faite, ils se lancent aujourd'hui dans ce que nous appelons les bayandas. Les gens qui transportent la nourriture sur des vélos pour aller vendre à Chikapa, à Mbujimayi, à Mouika, et ils tournent partout.
Oui, c'est
je
bon.
Constate, je m'excuse, je constate ça. Et nos universitaires, surtout ceux qui sont formés dans la faculté d'informatique, et gestion, tout ça. Ils sont aujourd'hui dans des cybercafés, ils ont des cabines téléphoniques. Donc, ça fait que dans cette ville, je me demande, ceux qui sont dans la médecine, bon, on les forme sur place, ils sont nombreux. Je me pose des questions, finalement, ces statistiques viennent d'où? Après ça, j'ajoute une autre dimension. Mon problème que je me pose, c'est qu'un État qui ne sait pas tout d'abord ses fonctionnaires dans la santé, qui ne sait même pas combien de médecins sont dans la santé, comment est-ce qu'il peut sortir des statistiques pareilles de la santé? Il y a la police, il y a l'armée, c'est la même chose. Il y a tout d'abord combien même de chômeurs pour qu'on puisse nous balancer ces statistiques. Les chômeurs, ils sont au nombre de combien? C'est ces remarques-là que je voulais seulement faire.
Alors vous êtes religieux, père. Je crois qu'au niveau des différentes congrégations, il y a quand même des congrégations qui vous êtes quand même certaines données qui font quand même des recherches hein, par rapport à ces secteurs d'emploi. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons atteindre quel taux de chômage dans notre pays?
Mais si vous connaissez le taux de chômage, il faut d'abord qu'on connaisse les chômeurs, ils sont au nombre de combien?
Tout à fait.
C'est ça le propre. On nous a jamais dit combien de chômeurs nous avons. Et bien, nous allons connaître le taux sans connaître tout d'abord le nombre de chômeurs que nous avons. On produit des diplômés d'État tout le temps, on produit des gradués tout le temps, on produit des licenciés et des docteurs tout le temps. On nous a jamais dit combien demandent d'emploi et ben, comment est-ce que nous allons connaître le taux?
Merci beaucoup.
C'est l'État qui devait nous-mêmes nous dire d'abord voilà le chômage que nous avons, voilà cette année-ci combien nous avons employé. Voilà ce qu'on a versé de nouveau et il reste autant. Mais quand on balance ça, ce n'est pas pour la consommation internationale.
Révérend Père Bernard, merci beaucoup d'avoir appelé des Kananga et surtout d'avoir contribué dans cette émission. On va terminer avec le dernier auditeur, Babon. Vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Babon.
Bonjour JR. Je voudrais ne pas vous prendre beaucoup de temps.
Vous avez juste une minute, ça va conclure avec
les invités qui sont là. Je crois qu'en termes de chômage, on ne peut pas évaluer en pourcentage, on évalue par chiffre. On nous dit qu'il y a autant de chômeurs et qu'on a dû engager autant au lieu d'aller dans les chiffres. Ça, c'est une aberration, d'abord. Et de deux, je voudrais, parce qu'on dit que la source, c'est la Banque centrale. Je suis ici à Mbujimayi, la Banque centrale a commencé en 1984 avec 85 travailleurs, agents. Bien engagé. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'en reste que 28, à part les décès et ceux qui sont allés en pension.
Voilà. Donc,
on est allé en dessous ou bien on a résorbé.
Merci beaucoup, Bavon, d'avoir appelé. Mbujimayi, nous allons conclure avec nos invités rapidement. Après avoir écouté les uns les autres, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à la tribune, hein, par rapport à cette cinquième tribune?
On doit plus retenir que le gouvernement est en train, à travers la Banque centrale, d'appliquer une très mauvaise méthode d'évaluation du taux d'emploi qui sont créés. D'où l'honorable Musito, comme vous l'avions dit, propose que l'on puisse appliquer une méthode qui soit médiane et effectivement que l'on puisse tenir même compte du 50% des emplois qui sont créés dans l'informel. Mais aussi, nous tirons la sonnette d'alarme au gouvernement. Au lieu de chercher à chaque fois à nous pomper que les chiffres, que les indicateurs sont au vert, le gouvernement doit savoir qu'il doit mettre en place des politiques publiques qui vont aller dans le sens, effectivement, de mettre en place un secteur primaire qui ne doit pas être prédominé par le secteur minier, qui dépend plus de la production des étrangers. Il doit savoir que nous avons un secteur industriel qui a besoin de l'énergie électrique, d'où la nécessité pour l'État de se désengager du secteur de l'électricité et du secteur marchand. De manière générale, il doit aussi savoir que le secteur tertiaire dépend en grande partie des importations. D'où, effectivement, le gouvernement, au lieu de dormir sur ce laurier en disant que les indicateurs sont au vert, il crée suffisamment d'emplois jusqu'à ce qu'en 2024, au lieu que nous puissions exporter des emplois de travailleurs comme actuellement, nous allons en importer. Vous aviez constaté que toutes les provinces, les auditeurs qui nous ont posé des questions, nous ont clairement démontré que aujourd'hui, le taux de chômage s'accroît. Ça ne décroît pas. Au moins, cette vérité est vraie. Ce qui est vrai, c'est que tout cela ne dépend pas du gouvernement actuel.
Mmh.
On ne peut pas dire qu'il
n'est pas les responsables.
Il n'en est pas les responsables. Mmh. C'est pour cela, effectivement. Bon, on ne peut dire pas totalement, mais au moins, le gouvernement doit dire vrai. Doit dire que voilà, j'ai retrouvé le pays à tel niveau,
voilà là
et voilà là où je vais, voilà les politiques publiques à mettre en place. Or, amener de telles faussetés,
Alors, Moutoso, dernier mot.
Il sort de la déclaration du gouvernement et de la sortie de la tribune 5e d'Adolphe Musique que le Premier ministre a menti au peuple congolais. Et c'est extrêmement grave.
pour preuve. Le gouvernement a paralysé toutes les structures capables de nous donner des données.
C'est le personnel, le Premier ministre, c'est le gouvernement.
J'ai dit le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement.
Mmh.
Il est démontrable qu'en paralysant les secteurs qui devaient nous donner les données fiables, on n'a pas de l'honneur d'autres structures, ce gouvernement ne veut pas résoudre le problème du chômage. Deux, ne nous ayant pas indiqué clairement la tranche d'âge concernée par sa réussite, le gouvernement voulait biaiser les données parce qu'il croyait encore à l'ignorance du peuple congolais. Troisième chose, le gouvernement ne pouvait pas être en mesure de nous dire le nombre d'emplois par province parce que généralement le tribalisme et le régionalisme règnent dans le secteur de gestion de ces régimes. Et enfin, le gouvernement devait aussi nous dire entre hommes et femmes, parce que nous avons souscrit à la question de la parité, non seulement nous dit le nombre d'emplois, mais nous dit aussi, il doit aussi nous dire le nombre d'emplois, femmes et hommes, pour que nous voyons qu'avec la question de la parité, nous sommes en train d'émerger. Il ne peut pas oser nous dire ça parce qu'il n'a pas le donné. Troisième chose, au lieu de parler au lieu de nous parler des données, le gouvernement devait d'abord mettre l'accent sur les préalables des données et les critères. Quand le gouvernement n'a pas donné et les préalables pour avoir les données et les critères pour avoir les données,
voilà.
Et après le gouvernement a menti au peuple.
Pour Toto Basanga, président de la troisième voie, Steve Kivota, cadre de Palu, merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Voilà, nous disons également merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Fezabongonda et Pierrot et Lamegi. Et l'émission qui vous a été coordonnée présentée par J.R. Lungembo. A très bientôt pour un autre numéro.